Deutsche Welle. Droits et libertés.
La récupération de violences intercommunautaires au Nigeria est le point de vue, forcément subjectif, d'un spécialiste, Gerald Knaus, sur les camps d'accueil pour migrants discutés par l'Union européenne pour être installés éventuellement en Afrique du Nord. Voilà les thèmes au sommaire de ce magazine cette semaine. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Régulièrement, l'État nigérian de Kaduna fait tristement la une des journaux. La région est régulièrement frappée par des violences, notamment des conflits sur la terre, entre paysans et éleveurs. Des centaines de victimes ont été recensées en quelques mois, mais sur place, le conflit et la violence ne sont pas thématisés pour aider les civils à résister ou à se reconstruire. Au contraire, même chrétiens et musulmans tentent parfois d'en tirer profit. Au petit matin, il n'y a pas grand monde sur la route qui relie Kaduna à Kafanchan, dans le nord du Nigeria. Dans la zone, les conflits entre les éleveurs et les paysans sont tels que des postes de police supplémentaires ont été installés. Et dans certaines localités, un couvre-feu a même été mis en place, comme à Zonkwa. C'est là que vit Emmanuel Dabiche. Il est pasteur de l'église baptiste Bishara.
Un soir, des hommes sont venus à moto. Ils ont tiré sur des jeunes gens. Trois d'entre eux ont été tués. Les autres ont été blessés et transférés à l'hôpital. C'est après ça qu'on a mis en place le couvre-feu. Il n'y a pas eu d'acte de vengeance. Personne d'entre nous n'est allé tuer qui que ce soit.
Difficile de dire combien de personnes sont mortes en tout dans ces conflits fonciers. L'église chrétienne parle de plus de 800 morts. La police, elle, en a recensé 204. Un chiffre qui paraît réaliste à Mohamed Bello Toukour, avocat et secrétaire général du CORET, la Confédération des organisations d'éleveurs en Afrique.
Dans le nord et le centre du Nigeria, il y a beaucoup de causes qui expliquent ce conflit. L'une d'entre elles est la question de l'identité ethnique. Ensuite, il y a les problèmes de terre, les conflits fonciers. Et puis, il y a la dimension religieuse. Des groupes musulmans combattent des groupes chrétiens. Mais souvent, les motifs profonds ne sont pas d'ordre religieux.
For whatever motives there could be, they are not necessarily religious.
La terre se fait rare au Nigeria, pays où la démographie est en train d'exploser. Alors la rivalité entre les paysans sédentaires et les éleveurs semi-nomades est grande. Les agriculteurs pestent contre le bétail qui piétine leurs champs et les éleveurs enragent de voir les routes qu'ils empruntent depuis des siècles pour la transhumance et leur pâturage se métamorphoser en terres cultivées, inaccessibles aux animaux. En plus de cela, des bandits se mêlent parfois aux pâtres et les armes de petit calibre circulent à foison dans la région. Mais à ce conflit terrien se greffe un autre problème. La plupart des éleveurs sont peuls, des Fulani à majorité musulmane, tandis que les paysans sont souvent chrétiens. Alors les rumeurs et préjugés vont bon train et alimentent les tensions. Kabir Karim, vice-imam de la mosquée centrale, le déplore.
Si cette crise a connu une telle escalade, c'est de la faute de ceux qui se présentent comme l'élite. Au lieu de dire la vérité, ils transportent des mensonges. Quand la violence a recommencé, on a bien compris que c'était à cause d'une haine tenace contre nous, les musulmans.
Quand Karim parle d'élite, il parle en réalité des chrétiens. Il leur reproche de profiter des conflits, car ceci incite les ONG internationales à lancer des projets de réconciliation dans la région, ce qui permet, selon Karim, aux églises locales de mettre la main sur des fonds supplémentaires. Karim cite quelques exemples hors micro, mais il se refuse à être enregistré quand il cite des noms. Un prêcheur d'une église évangéliste a effectivement monté ses fidèles contre les peuls, les appelant même à tuer tous ceux qu'il croiserait, et il ne s'est dédié que face à la contestation populaire. Précisons que ce type de conflit n'est pas l'apanage du Nigeria. On assiste à des tensions similaires dans les pays voisins comme le Sénégal, le Ghana ou le Burkina Faso. Mais partout, ils ont tendance à augmenter, d'après Mohamed Bello Toukour.
La composante religieuse ne joue presque aucun rôle dans les autres pays, pas seulement dans les pays francophones, c'est pareil au Ghana. Ce n'est pas un conflit religieux au fond.
L'État fédéral n'est quasiment pas présent dans le nord du Nigeria. L'identification des habitants est donc souvent d'ordre clanique, ethnique ou religieux. Et les tensions sont d'autant plus fortes qu'on n'en parle pas ouvertement. Il n'y a encore eu aucun procès, par exemple. Le pasteur Emmanuel Dabiche de Zonkwa a une explication pour cela.
If two people are fighting,
quand deux personnes se battent, on sait exactement qui a commencé. Mais si c'est lui qui est à l'origine de la bagarre, continue sans cesse de mettre de l'huile sur le feu, que peut dire l'autre? Alors que s'il y avait une pause, il pourrait réagir. S'il y avait une justice, les gens pourraient profiter de nouveau de la vie. Cela permettrait un retour de la paix.
Pour finir sur les conflits fonciers, l'ONG Rights and Resources Initiative estime dans un rapport qu'elle l'a publié récemment à Dakar que 63% des conflits qui émergent en Afrique subsaharienne entre les communautés rurales et des entreprises, cette fois, sont dus à des déplacements forcés de population. L'ONG appelle à un plus grand respect du droit à la terre et à prendre, je cite, au sérieux la pauvreté et l'inégalité du monde rural, tout en rappelant que les espaces africains ne sont souvent pas vides et disponibles, contrairement à ce qu'ont tendance à croire les multinationales. Retour en Europe maintenant. L'Allemagne, vous le savez, envisage d'expulser tous les migrants dont la demande d'asile aura été refusée. Et au sein de l'Union européenne, on parle beaucoup d'installer des camps pour les demandeurs d'asile en Afrique du Nord. Officiellement, c'est pour éviter que les candidats au statut de réfugiés et à l'immigration en Europe ne risquent leur vie en mer. Mais Gerald Knaus, du think tank berlinois European Stability Initiative, initiative de stabilité européenne, qui est basée dans le quartier de Kreuzberg, estime que la construction de camps en Afrique du Nord, c'est tout simplement...
C'est absurde.
Gerald Knaus est autrichien d'origine. Il passe pour être celui qui a eu l'idée d'un accord sur les migrants entre l'Union européenne et la Turquie. Pour lui, c'est bien simple. Les camps d'accueil basés en Afrique du Nord sont impossibles d'un point de vue juridique comme logistique.
Si on regarde bien ce que signifie cette idée, c'est que l'Union européenne s'appuie sur des États faibles, parfois proches de s'effondrer, comme la Libye, ou d'autres États qui n'ont même pas signé la Convention de Genève sur les réfugiés, comme l'Égypte. Et c'est là qu'on veut construire des camps d'accueil. Cette idée est absurde.
Gerald Knaus ne croit pas non plus qu'un accord similaire à celui passé avec la Turquie soit envisageable, côté européen, avec la Libye.
En gros, cela veut dire que seuls ceux qui sont renvoyés d'Italie ou mis sur des bateaux par l'Europe auront le droit d'aller en Afrique du Nord et qu'on leur garantirait leur sécurité en Libye ou en Égypte. Encore faudrait-il que la Libye ou l'Égypte soient des pays sûrs. Or, de ce que l'on sait aujourd'hui de ces pays, on peut absolument exclure qu'ils soient sûrs à court terme. Il faudrait donc que l'accord avec la Turquie soit respecté pour s'assurer que l'on ne renvoie pas des gens en Afrique du Nord ou au Niger.
Et de préconiser que les demandes d'asile soient donc examinées au sein de l'Union européenne. Mais pour faciliter ces démarches qui prennent du temps, il faudrait des processus administratifs accélérés, comme il en existe par exemple aux Pays-Bas, ce qui permettrait aux gens et aux États d'être rapidement fixés sur qui a droit à quelle protection et qui doit être expulsé, ce qui serait aussi, toujours selon Gerald Knaus, un signal fort pour dissuader les passeurs et les migrants économiques qui n'ont quasiment aucune chance de voir leur dossier accepté en Europe.
Les gens y réfléchiraient à deux fois avant de prendre le risque de traverser le Sahara, la Libye, pour s'asseoir dans un canot pneumatique et passer la Méditerranée. Prenons un Nigérian par exemple. S'il sait que les trois quarts des demandes de Nigérians sont refusées et qu'il va se retrouver au Nigeria au bout de 4 semaines, il y aurait moins de départs. Mais il faudrait que cela se fasse dans le respect de la Convention de Genève, sans expulsion avant examen du dossier.
Pas sûr que les procédures accélérées soient aussi dissuasives que cela pour les candidats au départ, qui sont bien souvent désespérés. De toute façon, dans l'état actuel des choses, les pays européens manquent de traducteurs et de fonctionnaires pour faire face rapidement à l'afflux des demandes d'asile.
On pourrait imaginer qu'une clé du problème serait d'instaurer des représentations européennes dans les principaux pays d'arrivée, comme l'Italie ou la Grèce.
Ces bureaux de l'UE examineraient alors les dossiers sur place et répartiraient ensuite les demandeurs acceptés entre les différents États membres en fonction de leur capacité d'accueil, par exemple. Ce qui pourrait se faire en coopération avec les Nations Unies, de l'avis de Gerald Knaus, qui préconise une politique plus humaine vis-à-vis des migrants. C'est la fin de ce magazine. Grand merci à Karine Bench et Catherine Gensler pour les sons. Pour nous écrire, toujours la même adresse, français@dw.com sans la cédille à français. Salut et à la semaine prochaine.